Je me souviens.
Je me rappelle. Tu te souviens ?
Elle se rappelle.
Elle se souvient.
Il se rappelle.
Ça a été comme une lumière dans la nuit, un flash. Nous avons tous vécu un événement marquant qui a été un accélérateur de vie.
Je me souviens, je me rappelle.
Bonjour amis auditrices et auditeurs. Aujourd'hui, je suis dans les locaux de Aide à Bourg-en-Bresse avec le responsable de Aide qui s'appelle Jean-Paul Godot. Bonjour Jean-Paul, vous êtes d'un engagement sans faille dans différentes associations, dont celle-ci. Et donc c'est un engagement qui remonte à loin peut-être.
Alors oui, mon engagement par rapport à la lutte contre le sida remonte à pas mal d'années déjà, puisque avant même que je sois salarié de Aide et coordinateur de lieu de mobilisation, ce qu'on appelle nous lieu de mobilisation de Aide sur Bourg-en-Bresse et du CARUD, du centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, j'étais bénévole de l'association depuis 1994. Et auparavant, j'avais été amené, alors que j'étais sur le Maine-et-Loire, j'habitais à Angers, à être en contact avec des personnes porteuses du virus du sida. Et c'était des personnes qui étaient devenues des amis à moi. Et de ce fait-là, j'avais commencé à m'intéresser à la problématique et accompagner ces personnes par rapport à leur problématique de santé.
Oui, c'était une découverte pour vous. C'était au moment où cette chape de plomb donc s'abattait sur notre monde.
Ah bien, tout à fait. En 84, début des années 80-84, on commence à parler du VIH, du sida. Mais vous savez, c'est un petit peu comme quand on en parle dans les informations, dans les journaux. C'est toujours les autres, bien sûr. Et puis à l'époque, c'était des personnalités. Quand on découvrait leur séropositivité, quand on parlait du sida, c'était pas mon voisin. C'était pas mon collègue. Et là, ça m'a touché parce qu'effectivement, c'était des voisins qui étaient mes amis.
C'était vos amis. Donc, vous expérimentiez donc cela à travers une relation forte avec des personnes. Et je voulais aller peut-être un peu plus avant dans cette conversation. Pourquoi aussi cette sensibilité donc à l'autre qui à ce moment-là s'est révélée? Est-ce qu'il y a des racines profondes à cet intérêt que vous avez eu et puis que vous avez encore pour plein de problématiques?
Alors, on peut gratter. Il se trouve que moi, j'étais déjà travailleur social à l'époque, et puis auparavant, quand dans ma toute petite enfance, mon enfance, mon adolescence, j'étais intéressé effectivement par rapport à la différence.
Qu'est-ce qui vous a intéressé au départ? Alors pourquoi? Comment vous l'expliquez?
Alors je peux faire différentes hypothèses. Une des hypothèses que je fais, c'est que je suis venu au monde, en fait, ma mère attendait un enfant. Je suis né en 60, ma mère attendait un enfant, et nous étions deux. J'ai donc un frère jumeau qui est né, puis moi je suis né quelque temps après. Et je pense que, en tout cas, je me suis, j'ai voulu me différencier, j'ai voulu m'ouvrir à un certain nombre de choses, vivre et être vivre de façon autonome, puisque j'étais pas attendu et qu'on attendait qu'un enfant.
Et c'est quelque chose que vous avez senti après le fait de ne pas avoir été attendu?
Alors, en tout cas, ce que je sais, c'est que dans les souvenirs que me racontaient mes parents, ma mère, c'était de me dire que j'essayais de me différencier de ma famille, de différencier de mon frère, pour avoir une existence propre. Et par exemple, c'est comme ça. Il se trouve que ma famille avait des préjugés. Mes parents avaient des préjugés racistes, xénophobes. Et très vite, j'étais interpellé et choqué par ces préjugés, puisque, par exemple, on tenait des propos discriminants vis-à-vis des personnes de couleur ou des personnes de religion différentes que celles qui étaient portées dans ma famille. Et ça me heurtait parce que on me disait des choses sur les personnes et en même temps c'est des personnes de couleurs différentes, des personnes de religions différentes, j'en croisais à l'école, j'en croisais au collège et ça ne correspondait pas à ce qu'on me disait de ces personnes que dans ma famille on décrivait comme des personnes dangereuses, des personnes qui commettaient des délits Et moi, mes copains, mes copines que j'avais au collège, que j'avais à l'école primaire, que j'avais au lycée, ben, c'était pas comme ça.
Donc vous êtes senti systématiquement avec l'autre, peut-être ?
Ben, en tout cas, je me suis senti intéressé et effectivement porté vers l'autre par curiosité. Et ma curiosité a fait que ben, les préjugés qu'on pouvait essayer de que je pouvais avoir ou qu'on pouvait me donner, eh ben ils ne tenaient pas à la réflexion, ils ne tenaient pas à la discussion. Et je passe sur mes premières aventures sentimentales où là aussi, mes copines étaient des personnes que ma famille rejetait. Ah ben c'était parfois compliqué. Il y a eu des fois où mes pauvres parents s'arrachaient les cheveux. Mais voilà, moi j'argumentais, je discutais et on en venait à un moment donné de se dire ben voilà, on n'est pas d'accord, on n'est pas du même avis. Mais c'est comme ça. Je ne les convainquais pas, mais ils ne me convainquaient pas de changer d'avis.
Vous dites vos pauvres parents, c'est-à-dire que vous conservez une affection néanmoins vis-à-vis.
Alors c'est une formule, pauvres parents. C'est juste parce que je sais que voilà, ils auraient bien préféré que je prenne un autre chemin. Je me rappelle par exemple des discussions avec mon père autour de la question de la peine de mort, par exemple. Mon père était horrifié que je milite contre la peine de mort. Quand j'ai commencé à ramener à la maison de la documentation du planning familial, je préfère vous dire que ça n'a pas été reçu de façon extrêmement positive par la famille.
Et donc vous vous engagez depuis la toute jeunesse en fait.
Ah ben oui, puis dès que j'ai pu effectivement commencer à m'engager dans des associations, j'ai rejoint effectivement des mouvements tels que Amnesty International, j'étais à l'initiative, alors quelques années après, de la création de SOS Racisme sur Angers, j'ai milité dans j'étais très proche du planning familial. Bon, il n'existait pas sur là où j'étais, mais bon, voilà. Voilà, il y a eu ce type d'engagement.
Revenons maintenant donc à cette découverte donc du SIDA chez des gens qui vous étaient proches. Il y a toujours aussi ce fait que vous êtes face à des personnes.
Ah ben bien sûr, je suis face à mon voisin, à une jeune femme que je rencontre dans le cadre professionnel et qui découvre à 16 ans sa séropositivité. Voilà, et ces personnes, je rappelle que dans les années 80, mais on pourrait faire malheureusement le rapprochement encore aujourd'hui, c'était des personnes qui étaient extrêmement rejetées, qui étaient exclues de leur milieu familial, qui étaient exclues de leurs proches, qui était exclu du
comme
milieu professionnel.
Peut-être vous un peu senti.
Alors moi, c'est moi qui me suis un peu exclu. Je ne sais pas si j'ai été exclu, mais c'est moi qui me suis différencié. Hein. Mais par contre, c'est mon voisin qui a découvert sa séropositivité. Lui, il était contaminé, effectivement, et c'est la société, c'est les proches qui l'ont exclu. C'est pas lui qui s'est exclu. Quand les gens voulaient plus lui serrer la main, quand les gens voulaient plus l'embrasser, quand les gens ne voulaient plus qu'il travaille, etc., etc., quand il était discriminé, y compris dans des structures de soins, c'est pas lui qui était responsable de ça. C'était bien la société, c'était bien les personnes qui l'entouraient qui le discriminaient, il l'excluait.
Qu'est devenue cette personne ? Vous avez suivi longtemps cette personne ?
Non, ben malheureusement, c'était en 84-85. Donc, c'est une personne qui a découvert, à l'époque, quand on découvrait sa séropositivité, en fait, les personnes découvraient, elles étaient au stade de sida. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de traitement, si ce n'est la ZT, qui était un traitement qui reculait un petit peu les chances finales. Mais la plupart du temps, voilà, les personnes que j'ai connues à cette époque-là sont décédées très très rapidement. Alors, il y a quelques personnes qui ont survécu. Hein. Aujourd'hui, on peut côtoyer des personnes, on peut rencontrer des personnes qui sont contaminées depuis le début des années 80, mais elles sont extrêmement rares.
Donc vous vous retrouvez au cœur de ce drame, donc avec une volonté d'agir. Vous rentrez à AIDS Et là, toute une organisation se fait.
Alors, je suis rentré après, par la suite, donc à l'époque, je disais que j'étais à Angers. Après, je suis venu vivre dans l'Ain, puisque j'avais rencontré mon épouse qui habitait sur Pirona. Et quand l'association s'est créée en 93-94 sur Bourg-en-Bresse, l'association Aide, effectivement, j'ai rejoint cette association en tant que bénévole.
Est-ce que Aide, ça ne concerne que les gens qui ont le sida, qui sont séropositifs ?
Alors, Aide a deux types d'actions. D'une part, une action d'accompagnement et de soutien des personnes porteuses du virus du sida ou porteuses d'ailleurs d'hépatite. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, ça va être des actions de réduction des risques. En tant que telles, les actions de réduction des risques, c'est des actions qui se dirigent vers un certain nombre de publics pour éviter que ces publics, à leur tour, deviennent contaminés par un virus, que ce soit sida ou que ce soit les hépatites. Donc ça va être, par exemple, ce qu'on appelle les HSH, c'est-à-dire les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, puisqu'il y a une prévalence, effectivement, dans les rapports, dans ce type de rapports sexuels, une contamination par le virus sida. Ça va être les travailleurs ou travailleuses du sexe. Ça va être les personnes, publics migrants, alors qui peuvent être déjà contaminés, publics migrants d'Afrique subsaharienne ou d'Europe de l'Est, qui peuvent déjà être contaminés ou qui, du fait de leur précarité de vie, peuvent être amenés à un moment donné à prendre des risques. Et puis, ça va être le public consommateur ou consommatrice, les personnes consommateurs ou consommatrices de produits psychoactifs. Puisqu'effectivement, par l'injection, par exemple, s'il y a partage de matériel, en particulier partage de seringues, il peut y avoir un risque de contamination par rapport au virus du sida ou par rapport au virus de l'hépatite C.
Donc là, ce que vous êtes en train de me décrire, c'est qu'il y a une variété de public qui est très importante.
Alors effectivement, si on met bout à bout tous les publics qui sont à risque, entre guillemets, ou qui peuvent avoir des prises de risque plus importantes, on peut toucher effectivement un public assez important, très diversifié, mais assez important.
Alors là, vraiment, vous êtes rentré dans le monde, dans aussi donc ces difficultés, dans aussi le fait qu'il faille les aider. Est-ce que vous avez une vision idéaliste ?
Je suis pas sûr que j'ai une vision idéaliste. Par contre, ce que j'ai comme vision, c'est qu'effectivement, les personnes qui, du fait de leur précarité, du fait de leur existence, du fait de leur mode de vie, peuvent être amenées à prendre des risques, et que ces risques, on les connaît, et surtout qu'on a les outils aujourd'hui pour éviter les contaminations, pour éviter que les personnes qui sont déjà contaminées, leur état de santé s'aggrave, eh bien, il faut mettre ces outils en place et les apporter, les donner, mettre à disposition des personnes.
Mais le fait d'être dans le monde comme ça, donc au contact de ces populations à risque, est-ce qu'il y a également une difficulté dans votre rôle ? Est-ce qu'il faut avoir du recul ? Est-ce qu'il y a un comportement qui peut être à risque pour vous si vous n'avez pas un certain recul par rapport à toutes ces personnes ?
Alors, il faut effectivement... vous parliez de recul, oui, il faut avoir un minimum de recul. Il ne faut pas non plus devenir des éponges. Parce que si on devient des éponges, on prend du poids, on pèse, et à un bout d'un moment, on ne peut plus agir. Donc oui, bien sûr qu'on est obligé de prendre un minimum de recul. Et puis aussi dans l'association, nous on part quand même du principe que l'expert, c'est pas moi, c'est la personne qui est en face de moi. Donc quand je m'adresse à une personne ou quand une personne vient vers moi parce qu'elle a besoin des services de l'association, je vais faire en sorte que cette personne soit aussi actrice de sa santé, soit aussi actrice de son devenir et en fait la mettre en position de citoyenne, citoyenne.
Il n'y a pas aussi des craintes à avoir, des manipulations ?
Alors, sans parler de manipulation, simplement, c'est pas parce que effectivement on fait partie d'une minorité que on est forcément ouvert aux autres minorités. Oui, il peut y avoir des personnes qui sont consommatrices de produits psychoactifs qui viennent à l'association et qui, à un moment donné, peuvent avoir un discours sexiste, un discours raciste, un discours homophobe. Et moi, dans ces cas-là, mes collègues ou moi, d'ailleurs, on va reprendre ces discours pour, effectivement, exprimer le fait que, ici, chacun a droit à la solidarité, mais au respect, et que le respect, c'est quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir agir en société.
Donc vous avez un rôle qui est multiple, un rôle d'aide, mais aussi donc un rôle aussi, comme vous voulez le dire, peut-être déconstruire certaines idées reçues. Vous êtes pleinement dans le monde depuis votre naissance, où vous êtes arrivé en deuxième position. Est-ce que vous avez un message pour terminer cette interview?
Alors, je sais pas, avoir un message, c'est peut-être un peu prétentieux.
Plus qu'un message ou un espoir.
Mais en attendant, je pense que aujourd'hui, le devoir de solidarité et le devoir d'ouverture d'esprit ou d'ouverture tout court et reste tout à fait nécessaire et reste tout à fait d'actualité. Et ceci d'autant plus que malheureusement, autour de nous, on croise de plus en plus de gens qui effectivement sont exclus, sont rejetés. Vous savez, moi, tout à l'heure, on me disait par rapport aux personnes dans les années 80 qui étaient rejetées parce que elles étaient séropositives. Aujourd'hui, quand on croise des personnes qui sont séropositives, très souvent, ces personnes, à un moment donné, dans la discussion qu'on peut avoir ensemble, vont nous dire « je t'avoue que je suis séropositif » ou « je t'avoue que je suis ceci, cela ». Eh bien, non, tu n'as pas à avouer. Tu as à me dire, tu as à me confier, tu n'as pas à avouer. Être séropositif, comme être migrant, comme être travailleur du sexe, comme être usager de drogue, effectivement, eh bien, c'est des choses, ça mérite le respect. C'est pas parce qu'effectivement, on est différent qu'on n'en est pas peu ou moins humain.
Ben, vous êtes dans l'écoute et non dans le jugement. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cette interview et j'espère que vous saurez écouter sans jugement, amis auditeurs. À bientôt.
Amis auditeurs, si vous avez un souvenir marquant que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à nous le faire savoir en contactant Radio B. À bientôt.